c'est moins évident. Moi, en tout cas, à l'âge que j'ai, je pense qu'après le show, j'irai me coucher. Là, je pense pas, je partirais sur la galère. Là.
Ouais.
Je sais pas, c'est pas quelque chose là, que je serais capable de faire encore à l'âge que j'ai, je pense.
Ouais, ben c'est sûr que Rémi va nous le dire dans quelques instants, mais c'est clair que en ce qui me concerne, moi, les tournées, j'en ai fait plusieurs. Puis et c'est vrai que en vieillissant, c'était une autre affaire. Mais je me rappelle, moi, j'avais une anecdote qui me fait encore sourire. Parce que les tournées, ça dépend où tu vas. Hein. Je me rappelle, écoute, on devait être quelque chose comme dans le début des années 90. Alors, j'avais fait une tournée avec d'autres humoristes, Anthony Cavana, Michel Barrette et puis plusieurs autres. Et on faisait une tournée d'un spectacle qu'on préparait pour Radio-Canada parce qu'on on l'enregistrait. Alors, c'est une tournée assez particulière. On allait en région roder le show, puis on se disait, quand on va arriver pour le tourner en septembre à Radio-Canada, il va être vraiment solide. Et avec Claudine Mercier, je me rappelle, Jean-Marc Parent également. Bref, une tournée avec beaucoup d'humoristes. Et c'était, dans les années 90, à ce moment-là, c'était un moment où Michel Barrette lui animait la soirée. Il était donc pour animer le show de télé qui en résulterait. Et Michel avait décidé de quitter IA Tremblay. Donc, c'était donc un moment charnière dans sa vie où il décidait de devenir un raconteur, puis pas juste tu sais. Et là, on est dans des bars en tournée, dans des bars dans le nord de Montréal, ou dans les Laurentides aussi. Je me rappelle, un soir, où, puis ça s'était produit quelquefois, la minute qu'il entrait sur la scène en stand-up, donc pas déguisé rien, il y avait du monde dans le bar qui criait « Hey, remets ton costume de IA! » Et là, non, je te jure, ça lui criait ça. Et là, Barrette, qui est pourtant très sûr de lui, revenait en coulisses, puis souvent, il était un peu atterré, dérangé. Et moi, ce que je faisais dans ce show-là, je faisais mon garagiste, clairement, qui venait en numéro. Et moi, j'avais beaucoup d'empathie, puis ça me décevait, ça. J'avais fait comme, un soir, là, je me rappellerai, j'avais dit à Michel avant l'entrée, je dis, Michel, le gars, il va s'en rappeler. Et j'entre en Jean-Guillaude, et là, le gars est au fond. Hein, ces gens-là crient toujours à l'arrière. Et là, je suis là, puis je fais comme, hey, « bonsoir tout le monde, t'es mal, ouais, ça va bien, et là, je commence, puis à un moment donné, je fais comme, « Il y a des caves dans la vie, hein, comme toi et le cave. » Et là, je décide, que je vous jure, tu sais, « Toi et le cave, hey, on peut-tu l'applaudir, le cave? » Et je vous jure, le gars, le monde, je fais applaudir le monde, il est sorti. J'étais tellement content comme une espèce de bouncer sur la glace. Je suis revenu d'un coulisse après, j'ai fait high five avec Barrette, je fais attends. Lui, il t'achalera plus. Je vais toujours me rappeler ça parce que la vie de tournée, c'est aussi des gens qui nous fatiguent dans certains coins. C'est pas toujours des salles et des moments agréables, mais il y a de ces moments-là où il y a des petites victoires qui se créent. Maintenant, celui qui a le plus vécu de tournée dans nous trois, c'est Rémi, notamment avec Elvis Experience. Toi, Rémi, ta vie de tournée est assez marquante quand même.
Ben, c'est sûr, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des tournées fabuleuses. Je suis allé en Égypte, en Grèce, en Allemagne. Même pas avec Elvis, là, avec d'autres tournées, des choses. Mm-hmm. Puis des fois, c'est quand tu vas à Paris, c'est sûr que c'est une belle tournée. Puis des fois, tu te dis, hey, je vais à Vegas, j'ai joué à Vegas pendant longtemps. À un moment donné, le monde dit, hey, à Vegas, Vegas! Wow. J'étais dans le même théâtre qu'Elvis avait été. Puis là, c'était comme. Mais là, il faut que je vous raconte une anecdote, parce que c'est pas toujours. Tu sais, des fois, on est dans des chambres d'hôtel, c'est correct, là, mais bon. Dans cette tournée, la tournée à Vegas, à un moment donné, il y avait. On logeait dans un hôtel qui était correct, là, tu sais, j'étais bien correct, petit déjeuner et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup de sous per diem. Fait que là, il nous disait, allez manger dans la cafétéria des employés du Westgate. Mais là, on arrive là, on mangeait là, mais là, ça avait. On était malade. Je sais pas comment les employés faisaient pour manger là. Aussitôt qu'on mangeait ça, c'était direction aux toilettes. Fait qu'à un moment donné, tout le monde était. On n'allait plus là parce qu'on était tous malades. Puis j'avais fait une vidéo que je vais vous présenter qui sont les vraies images de la vraie cafétéria du Westgate.
Est-ce que tu avais gardé ça?
Oui, j'avais filmé tout ça.
Wow.
J'étais tellement. Fait que là, j'ai fait comme on faisait avec la jungle dans le temps, tu sais, toi, t'es déprimé, il y a une affaire dans
le monde. Exactement, là, pour remonter le moral un peu,
exactement. Sarcastique. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, on peut écouter ça ensemble si vous
avec
voulez.
C'est comme, ouais, c'est ça.
Et toi, tu souffres de constipation, tu es déprimé, épuisé. Nous avons une solution pour toi. La cafétéria du Westgate. La solution idéale pour moins de $0. Oui, $0. Nous te garantissons une évacuation de premier choix. Oui, oui, $0. Appelle sans frais au 1-555-WESTGATE. Ça garantit du Chiramont.
c'est la solution rêvée. 1-555 Westgate ou www.duchiramou.com. On t'attend.
Hey, on est loin des tournées extraordinaires et belles. Mais en même temps, dis-moi, l'artiste principal là-dedans, lui, est-il à la même place ou lui un peu mieux?
Ben, lui, il logeait dans le Westgate, mais...
Il mangeait pas ça.
Mais, ben, des fois, il est venu, mais il est pas venu souvent, parce que...
Ah non, c'est... ouais, c'est un revenez-y, mais aux toilettes.
Exact. Ouais. Mais en tout cas, c'était juste... une petite anecdote, finalement.
Alors, on se dirige maintenant vers le deuxième sujet, et c'est la planète, ça brûle-tu trop? On va-tu passer au feu? On va le savoir en s'en parlant dans quelques instants.
Pour faire original, c'est à partir d'une passion. La passion de la bière.
Créer de la bière, c'est vraiment un travail d'équipe, du brassage jusqu'à la personne de la bouche. Parce qu'on est une des microbrasseries au Québec, on a la plus grande diversité de bières brassées. Tant avec des ingrédients différents, des nouveaux blonds, tous les fruits que tu peux pas t'imaginer. Fait que la raison pour laquelle les fondateurs ont parti ça, c'est de faire le plus de bières différentes possibles pour que le monde puisse goûter à tous les styles possibles.
On peut pas juste faire de la bière, fallait de la bouffe, la bonne bouffe. Poutine, pizza, nachos, la bonne bouffe.
Ah, la planète, hein? On brûle-tu trop? On est-tu conscient que ça va pas bien? C'est drôle, les gars, je disais justement ce matin qu'on éduque de plus en plus les lecteurs météo à travailler en fonction d'un drame. C'est-à-dire que les lecteurs météo, on a toujours dit que c'était du monde qui lisait des textes, des bulletins, là, puis qui disait, eh bien, il fera pas beau. Mais attends, s'il fera pas beau, ça peut causer des incendies graves. Ils peuvent pas être légers, hein? Fait que, écoute, on se pose même des questions à tout égard. Maintenant, nous, ce qu'on se pose tous les trois, chers auditeurs, aujourd'hui, c'est, est-ce que la planète y est trop tard? Bon, mettons que moi, je me lance dans le sujet, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, je me dis, il faut quand même se dire qu'on a un exercice tous à faire au quotidien. Est-ce qu'on le fait? Moi, je me dis, est-ce qu'on a compris qu'on a une responsabilité? Par exemple, on entend de parler d'auto électrique, de vélo électrique. J'ai participé à un événement de rassemblement de gens qui ont des vélos électriques. Ça peut être ça, mais c'est pas parce que t'as pas une auto électrique ou t'as pas un vélo électrique que t'as pas à te trouver une chose à faire, une responsabilité pour la planète. Ça, je pense que c'est crucial au moment où on se parle. Puis quand on évoque l'urgence climatique, c'est sûr qu'en quelque part, tu te dis, moi j'ai 60 ans, fait que c'est sûr que t'es porté à dire, si t'es plus vieux, ouais mais plus tard, mais moi je regarde mon petit-fils qui a 22 mois, puis je me dis que l'urgence climatique là est vraiment préoccupante, parce que c'est bientôt, je veux dire, c'est grave là, ce qui se passe actuellement sur la planète. Moi je suis arrivé sur la Terre en 1961, ok? Rémi, ça va te rappeler des souvenirs, c'était une époque hein, où jeter des objets par la fenêtre, vider son cendrier sur le trottoir, c'était monnaie courante. On n'avait même pas conscience que c'était grave. Mais je me rappelle que ma mère me disait toujours, faut pas faire ça. Puis elle, c'était pas tant de sauver la planète, c'était la propreté et le respect. Ça, c'est quelque chose, parce que quand on dit sauver la planète, si ça n'a pas de résonance pour vous, est-ce que le mot respect peut en avoir? Et moi, je reviens à ça, parce que j'y ai beaucoup pensé. Je me suis dit, ma mère, c'était ça, tu sais, c'était ça, c'était de dire, ben voyons, c'est mal propre. Je me souviens, quand j'étais jeune, on allait quelquefois, souvent, tous les étés, on allait aux États-Unis. Il y avait des endroits où on allait ailleurs dans le monde que chez nous, puis on disait, waouh, c'est donc ben beau, il n'y a pas de saleté dehors. On parlait pas d'environnement, on parlait simplement de respect des lieux, puis c'était quelque chose qui n'était pas toujours propre à ce que l'on vivait, et ça, je trouve ça déplorable. Mais il y a clairement des mentalités qui sont dures à changer, parce que des fois, ça part de loin, c'est creux. Tu sais, j'entends encore du monde, des fois, dire, « Ouais, mais les canicules, c'est pas grave, t'as juste à mettre l'air climatisé au bout. » Ouais, c'est bon, en maudit, tu sais, puis ou encore, tu sais, je veux dire, comme les chars électriques, bon, les chars électriques, moi, là, un char, là, je veux dire, c'est pas un toaster, tu plugues ça quand il fait moins 40. Ben oui, belle mentalité, tu sais. Il faut absolument que ça soit dans nos têtes que le changement se fasse. Bon, là, moi, je vous donne mon point de vue, mais je sais que toi, Fred, t'es vraiment pessimiste, je pense, par rapport au sujet.
Je voudrais être comme toi, mais non, moi, je pense qu'on va tous finir par cuire, là.
Ah ouais.
Dans 100 ans, en fait, les snowbirds, ils vont être bien contents parce que dans 100 ans, ça va être la Floride ici. Fait qu'ils auront plus à, ils auront pas à descendre. Mais imaginez dans la région du globe où il fait déjà super chaud, là, ça va être invivable. Puis là, c'est sans compter les glaciers qui fondent. Hein, fait que là, t'es que kayak, comme
c'est une dire.
Ouais, t'es que kayak. Peut-être c'est une prophétie qu'elle a faite. L'être humain est fou, on s'en va direct dans le mur, on pollue de plus en plus, puis tout est beau. Comme tu l'as dit un peu tantôt, là, les gens, oh, ça me dérange pas. L'urgence climatique, là, ils disent, ah, bof, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va s'auto-détruire de toute façon. Ouais, je pense que les gens là sont négatifs par rapport à ça ou ont des lunettes roses en se disant, gars, puis il y en a qui vont dire aussi, ben la science va tout arranger ça, peut-être, mais tant que le profit va être là en premier, ben le but de sauver la planète, ça va passer en deuxième, je pense. Pollution, essence, les mines, hein, comme à Rouyn-Noranda, là, tu sais. Mais je pense que c'est le profit qui mène avant tout. Là,
c'est nos dirigeants politiques qui ont un rôle à jouer, Fred.
Ben, je me demande, ouais, peut-être, mais tu sais, quand la mine à Rouyn-Noranda, il y a tant de gens qui travaillent là. Tu sais, peut-être que les politiciens, après ça, ils essayent de jouer des deux côtés. Hein. Donc, ça peut être compliqué là, de trouver une solution. Tu sais, ça a l'air simpliste au départ, là, mais je pense que les solutions sont pas tant évidentes que ça non plus. Là. Mm-hmm. Parce que tu parlais de l'auto électrique tantôt. Ouais. Oui, si on change l'auto électrique, bon, on a plus d'effet de serre, il n'y a plus de gaz, mais après ça, les batteries, ça pollue. En tout cas, donc ça devient compliqué de trouver une solution qui règle tout, finalement.
Là. Écoute, Fred, écoute, je t'entends, puis ça me donne le goût de vivre. Alors, ça t'a dit d'allumer, mettre le feu à ta maison, puis d'être le premier à t'immoler pour la cause. Mais
Mais comme tu l'as dit, les enfants, tu parlais de ton petit-fils. Ben moi, j'ai des enfants aussi. Tu sais, c'est épeurant là, pour eux autres, je trouve.
Exact. Mais en même temps, Fred, faut pas être trop négatif. Il y a Rémi qui va, semble-t-il, nous éclairer, nous en apprendre plus. Peut-être qu'on va sortir grandi de cette réflexion-là, Rémi.
Ouais, ben grandi, c'est que j'ai fait des recherches sur le côté électrique, le côté éolienne, le côté essence. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi je vous ferais pas faire un petit quiz là-dessus? C'est juste pour voir les différentes affaires. Fait qu'on commence avec un choix de réponse A, B, C.
Let's go.
Combien y a-t-il d'huile dans une éolienne? 10, 600 ou 1100? A, B, C.
A.
B.
B, c'est B. Il y a 600 litres d'huile. Fait que dans une éolienne, il y a 600 litres d'huile. Un petit vrai ou faux, les changements climatiques favorisent le fatalisme.
Vrai.
C'est vrai. Les gens deviennent plus fatalistes parce que ils disent, ah, ben, ça sert à rien. Comme tu disais tantôt, tu sais, ah, ça sert à rien.
Ouais, ça sert à rien, de toute façon.
Vrai ou faux encore, nous ne manquerons jamais de lithium pour faire des batteries.
On va en manquer,
oui. Combien représente l'empreinte carbone pour la fabrication d'une voiture électrique? 10%, 60% ou 41%?
Je sais pas, j'ose croire 10.
41.
C'est 41. C'est quand même beaucoup.
Ouais.
Quand même, c'est
combien
ça,
de tonnes de batteries se sont vendues en 2017? 10 000, 200 mètres, 6 000 ou 500 000?
500 000.
Allons-y pour 500 000.
C'est 226 000, puis c'est le poids de 22 tours Eiffel. OK? Il m'en reste... Oui, c'est quand même beaucoup. Qui sont les principaux consommateurs et producteurs de charbon en 2018?
Les producteurs de charbon.
Ouais. OK, il n'y a pas d'ABC.
Il n'y a pas d'ABC.
Okay. La Chine.
Le Canada.
C'est la Chine en premier, l'Inde en deuxième, puis les États-Unis en troisième. Fait qu'on est...
Non, on est...
non, c'est ça.
Vrai ou faux, l'usage du pétrole représente près de la moitié des émissions de carbone aux États-Unis et près d'un tiers mondial.
Ben, je dirais oui.
Faux.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je dirais faux. Ouais, vrai, OK.
Il m'en reste deux. On continue-tu encore un petit peu? Ou... le gaz naturel est plus propre que le charbon et le pétrole.
Est plus propre, ça dépend ce que c'est, je veux dire, qui pollue moins.
Qui pollue moins.
Je dirais oui.
Exactement.
Moi aussi, je dirais oui.
Bon, on a au moins, dans une de tes questions, il y a un peu de positivisme, mais continue.
Fait que, c'est un peu la chose, puis en terminant, il y a beaucoup de... Il n'y a pas de solution. J'ai regardé les carburants fossiles, les batteries, ceux qui font les batteries. Est-ce que c'était comme un peu... J'étais positif.
Ben, la solution, c'est d'en revenir au 17e
siècle.
Oui,
mais ce qu'on vit présentement, j'ai lu que ce qu'on vit présentement, c'est beaucoup des années 40, 50, 60, les guerres mondiales, les tests nucléaires, ces affaires-là. Il y a ça aussi.
Ce qui a beaucoup causé.
Ouais. Oui.
OK. Ouais. Mais puis c'est correct. Mais maintenant, moi, je reviens quand même à une base de dire, ben si on peut te rallonger la vie un peu, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on est capable de réduire un peu tous notre empreinte, on va vivre plus longtemps. Et j'aurais envie, tiens, l'idée me vient comme ça à travers toutes les données que tu nous offres, Rémi, de dire que peut-être qu'on ira vivre sur une autre planète.
Peut-être.
Peut-être.
Ouais, mais on va faire la même affaire là-bas.
Oui, mais ça va nous donner du temps. Écoute, non, c'est pas des planètes. Arrête donc d'être négatif, toi. OK, parfait. Je vais t'inviter à être positif avec le sujet qui va suivre.
Oh, ça va.
Et là, bonne chance. C'est bien sûr le scandale de Philippe.
Créaform. Tu connais? Ils font des scanners 3D portables avec une précision aussi fine que la moitié d'un cheveu. Ils cherchent des développeurs logiciels et scientifiques pour repousser les limites de la technologie optique. Écoute ça. Horaire et lieu de travail 100% flexible, plein de cerveaux brillants comme toi, tu feras pas juste du code, tu pourras tester, faire de la recherche, voir ce que ça donne. Retiens le nom, Créaform.
Bon, ben là, ça y est, ce fameux sujet. Je sais que tous les gens qui êtes à l'écoute présentement, vous vous dites en majorité, qu'est-ce qu'ils vont dire sur ce fameux sujet de Philippe Bande? Écoutez, c'est un cas immense. On va en parler, bien sûr. Puis en même temps, au moment où on parle de ça, parce que c'est hop, il y a tout le scandale de Hockey Canada, l'équipe de hockey junior, qui, on l'a appris là dans les derniers jours, parce que c'est des sujets qui se chevauchent, hein, pour pas trop jouer sur les mots, la fameuse loi du silence, hein, c'est la même chose qui se passe. On essaie de protéger des gens. Dans le cas d'Hockey Canada, parce que je veux précéder avec ça, des jeunes qui ont violé une jeune femme, il est clair qu'il faut abolir cette loi du silence, puis l'état-major d'Hockey Canada, c'est clairement qu'ils vont se faire tasser à travers toutes les lectures qu'on a pu faire. Et j'ose espérer que des femmes vont être embarquées dans l'organisation, parce que je l'ai lu aussi, pour aller mettre une lumière nouvelle, une nouvelle façon de voir. Parce que les jeunes hockeyeurs, on a tous joué au hockey, les gars, quand on était jeunes. Des jeunes qui sont ensemble, de leur bord, ben, je veux dire, c'est sûr que les petits gars, ils ont une façon de penser, les petites filles ont une façon de penser. Dans les deux cas, ça va prendre de l'éducation. Puis moi, je me rappelle du hockey junior quand j'étais jeune. À Sorel, il y avait entre autres un coach qui s'appelait Rodrigue Lemoine, qui a marqué le hockey junior. Ben, quand il sortait, lui-là, il était coach, là, ben, il se promenait à Sorel le soir pour aller voir les joueurs qui étaient sortis dans les bars. Il devait pas être sorti, il devait être dans leur chambre. Mais ça se passait dans les années 70. Mmh. Puis ça n'a pas changé. C'est ça qui est atroce. C'est qu'il n'y a pas eu d'éducation. Alors moi, je me suis mis à penser un peu en humour, hein, parce qu'à un moment donné, il faut un peu évacuer tout le côté fâchant de la situation. J'ai fabulé un peu on pourrait peut-être faire que les jeunes hockeyeurs qui vont dans les bars, OK, les jeunes hockeyeurs d'Hockey Canada, par exemple, qui vont dans les bars, ben par exemple, ils seraient, comment je dirais, ils seraient épiés. Hockey Canada, c'est nos sous. Ben, ils iraient dans des bars. La transparence serait à l'honneur parce que, par exemple, on aurait une émission de télé qui décrirait ce qu'ils font. Comme ça, tout le monde le saurait ce qu'ils font et ça pourrait être présenté, par exemple, à RDS. Ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Et voici. En direct du Sex Lounge Bar à Edmonton, c'est la soirée des hockeyeurs juniors. Mesdames et messieurs, accueillons Marc et Pierre. Eh bien, Marc, bienvenue à la description des activités nocturnes des joueurs d'équipe Canada Junior. Nous sommes en direct du bar, le Sexy Bar à Edmonton, et là, l'action reprend. Eh bien, le numéro 8, un jeune de 16 ans, qui est entré avec de fausses cartes, ma parole, se dirige vers une jeune femme. Oh, il lui envoie un texto à son coéquipier, maintenant non, à son coéquipier de numéro 27. Aïe, 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 aïe. Et là, il s'élance vers la jeune femme et il lui offre un verre. Ah, il lui montre son cellulaire, mais oh, non, il n'y a pas photo. Alors, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Marc. Oui, tu as tout à fait raison. Et là, deux joueurs invitent la jeune femme à sortir du bar. Oh, ce qui pousse les dirigeants d'Équipe Canada à sortir le sifflet. Alors, les deux joueurs seront donc suspendus pour le reste de la saison. Alors, c'est complètement fou. C'est ma tête, hein, qui a éclaté. Mais je trouve que
il faut trouver des façons avec notre radioluminol d'être capable d'avoir une lecture qui nous aère un peu le sens critique par rapport à ça. Parce que oui, Rémi, faut quand même être capable de trouver les mots, parce que c'est difficile comme sujet, c'est hard. Toi, évidemment, le cas de Philippe Band, ben ça t'a aussi interpellé, puis tu t'es dit, en fait, ça te fâche, je pense, au départ.
Ben, effectivement, moi, tout ce qui viol ou n'importe quoi, t'sais, agression, je suis rendu que, je sais pas si c'est parce que je vieillis, mais j'écoute des films avec ma blonde, puis des fois, quand il y a des affaires de jeunes agressés, puis je suis plus capable de l'écouter.
Non, fait c'est
que je me suis dit, garde, le mieux pour évacuer mon chose, je me suis dit, on était une radio liminale, radio.
Exact.
Fait que moi, j'écoutais beaucoup la radio, comme toi, puis on en a fait de la radio, et puis fait que je me suis dit, peut-être que je vais me faire une émission de radio. Un palmarès, on écoute ça toutes les fins de semaine, des fois, week-end, je sais pas quoi. Alors, j'ai préparé un petit truc là-dessus. Alors, on écoute.
Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre radio luminole. Voici un montage, montage des pièces de la semaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Radio Luminol.
Excellent.
Le palmarès excellent de Philippe Bond. Wow. Écoute, ça
bah,
ouais, puis en même temps, ça t'a permis, hein, c'est ça aussi l'humour des voix, ça te permet d'aller dans un canal d'une affaire qui t'a longtemps achalé, ces fameuses grosses voix qui sont vides. Ça dit tellement pas grand-chose.
Oui, chérie, comment ça va ce soir?
Fred, toi, t'as le goût vraiment d'embarquer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que, bon, de nous dire ton feeling par rapport à ce scandale qui est de trop encore.
Ben, en fait, moi, ce que je trouve triste un peu à travers tout ça, c'est que oui, on voit là plusieurs prédateurs qui sortent, mais c'est souvent, tu sais, médiatisé autour de l'humour, de la politique, peu importe. Et puis, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens dont on n'entend pas parler, hein, qui sont victimes de ça. J'ai l'impression que peut-être ces gens-là, je sais pas, peut-être que c'est plus difficile de faire avancer leur dossier à ce moment-là, je sais pas. Tu sais, quand ça sort en pleine page des journaux comme ça, c'est sûr que ça percute, puis les gens vont de plus en plus vouloir en savoir, et puis bon, ça va sortir, tout ça. Hein. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de gens, je sais pas, comme dans le domaine, dans le domaine de l'éducation, je sais qu'il y a ce genre d'affaires de même, là, qui arrive quelquefois, puis c'est beaucoup plus difficile de prouver quoi que ce soit. Donc, ça serait le fun que... Oui, c'est le fun, parce qu'au moins, ça montre qu'il peut se passer quelque chose, que ça évolue, mais il faudrait que ce soit à l'art.
Exact. Je comprends ton point de vue, Fred. Ouais. Ce que tu dis, c'est que c'est déplorable, et là-dessus, on est tous les trois d'accord, ouais, déplorable, mais même faible, hein, c'est abominable, ouais, hein, on pourrait se permettre de dire. Mais toi, ce que tu dis, c'est que, encore une fois, c'est la popularité d'un domaine qui fait que ça aide. Dans le fond, tu dis, faut qu'on aide les victimes des autres secteurs moins populaires.
Ça, oui.
C'est un très, très bon point. Oui, parce que l'autre affaire aussi, moi, les gars, que je trouve, c'est que, je sais pas vous autres, mais moi, je trouve que ça dérange les relations hommes-femmes.
Ben oui.
Il y a quelqu'un qui a écrit avant hier que le jeu de séduction pour les jeunes qui veulent vivre en couple ou qui veulent simplement vivre une nouvelle relation avec quelqu'un, c'est devenu difficile. Moi, là, m'en vous le dire, je l'ai même pas dit à ma blonde, mais moi, quand je vois la quantité d'affaires de même, je me dis, crime, on passe pour quoi les hommes, en quelque part? Vous avez pas cette impression-là?
Ah oui.
Ouais, tout à fait.
Puis ça, on n'en parle pas, là. Mais ça, ce sont des répercussions qui sont atroces. Moi, j'en ai ma maudite claque.
de...
Moi, je voudrais pas avoir 18 ans, là, puis...
D'une part...
Cruiser, là, ça doit être compliqué maintenant, là, à ça.
T'as raison, Fred, mais en même temps, je trouve ça dur aussi, à l'âge que j'ai, d'avoir, ouais. En quelque part, j'ai pas à supporter ça, mais je suis tanné ouais. du discours anti-homme que ça génère, parce qu'en quelque part, ça crée un peu ça, ou tout au moins, tiens, OK, je vais être clair, ça me crée un malaise. Puis ça, je t'ai écœuré. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se quitter avec une toune que j'ai décidé de faire. Et encore une fois, j'ai envie de faire que l'humour peut servir. J'ai décidé de faire une parodie, d'une chanson qui est extraordinaire, qui est un classique au Québec, qui s'appelle « Un musicien parmi tant d'autres » de Serge Fiori. Et là, ça devient « Un abuseur parmi tant d'autres ». Parce qu'il y en a trop. Et j'ose croire, comme tu l'as bien dit, Fred, que, à force d'en parler et de le dire, et peut-être de le chanter, qu'on va faire changer des choses. On vous salue tous les trois et on vous invite à être des nôtres pour le prochain Radio Luminol. Voici un abuseur parmi tant d'autres.
Une main sur un épaule, là elle ne te trouve pas drôle. Ton zipper monte et descend, tu ne vois pas qu'elle serre les dents. Tu fais du mal, encore une fois. On s'est mis à t'accuser, et toi tu n'as fait que nier aux nouvelles. On te descend, les histoires à glacer le sang, et tu l'as fait plus d'une fois. Ta vie publique est gâchée, c'est mourir dans l'indignité, c'est de ça qu'on s'appellera. Même le pape te pardonnera pas ta vie d'avant. Elle ne reviendra pas. Les Bill Simpson ne le réveille, un humoriste a fait son temps. On est tanné de ce monde qui brise des vies sans s'arrêter. Ils se croient les rois du monde, ces abuseurs jamais rassasiés. On est tanné de ce monde, de tous ces phallocrates aveuglés. Vous êtes des êtres immondes, on le répète, vous êtes mieux d'écouter. Tirita,
tout le monde ensemble.
On est tanné de ce monde qui brise des vies sans arrêter. Tirita, ils se croient les rois du monde, ces abuseurs jamais rassasiés. On est tanné de ce monde, de tous ces ballocrates à venir. Vous êtes des êtres immondes, on le répète, vous êtes mieux dictés. Tout le monde ensemble. On est tanné de ce monde qui brise des vies sans arrêter. Ils se croient les rois du monde, ces abuseurs jamais rassasiés.
Radio Luminol,
avec René Dumas, un éclairage nouveau sur l'actualité.
Les jeudis dès 22h, tu manques pas le Bloc Hip-Hop.
On a le parrain du rap Keb qui est au bout du fil. What up, SP? Comment ça va, man?
Yo, what's up, man? C'est GMD, on est là, what's up, en forme d'Alchem. À Québec, on va faire combien demain? Toujours chaud dans le bloc.
Toujours chaud, man.
Belle brochette d'artistes qu'on vient d'entendre là.
Ah oui, oui. Ah, même, hein?
Ouais.
Toute quelle expression, ça, une belle brochette.
Personne suite d'artistes.
Ouais.
Pas correct, ça. Une
ribambelle.
Une ribambelle, ça, c'est fort, man.
Une ribambelle d'artistes.
Gros beat. Des grosses nouveautés. Des grosses entrevues. Du gros fun. Plein d'autres trucs. Les jeudis, 22h, t'écoutes le Bloc Hip Hop.
This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour, early in the morning, wake your goat mouth ass up. This is
96.9
FM on your dial, and we're flipping it just like this.